J'ai quelque chose de très intéressant à proposer maintenant à votre réflexion. Un jour, l'auteur de ces 5 principes était assis avec un étudiant tunisien à Paris et il travaillait, cet étudiant tunisien, sur son doctorat. Un étudiant brillant, et je crois que son nom était Ali. Ils étaient assis dans sa chambre et ils partageaient simplement quelques questions sur l'évangile quand tout d'un coup son interlocuteur lui a dit « Mais vous les chrétiens, vous dites que Jésus, il est mort 3 jours et 3 nuits, qu'il a été dans le tombeau. Et vous dites que Jésus est Dieu. Donc si Jésus est mort, ça veut dire que Dieu est mort. » C'est la première fois que le responsable de ces 5 principes était, je dirais, interpellé par une telle question. Et il se mit à réfléchir et il commença à prier fortement. Pourquoi ? Il est important que dans ces 5 principes, nous puissions toujours être remplis du Saint-Esprit. Laissez l'Esprit de Dieu véritablement vous communiquer toute la sagesse. Et une idée alors est venue à mon ami qui partageait les 5 principes dans son cœur, et une réponse tout à fait singulière, la voici. Il a vu sur son étagère un beau vase, comme celui-ci. Une chose semblable. En Tunisie, il y a beaucoup de vases comme ceci et les Tunisiens sont très habiles dans le domaine des poteries. Il y a même une ville qui est assez connue, c'est la ville de Nabeul. Et quand vous allez à l'entrée de la ville de Nabeul, il y a un vase immense avec un arbre à l'intérieur. J'assure que les Tunisiens sont véritablement très fiers de ces poteries-là. L'auteur des 5 principes a saisi ce vase qu'il a trouvé sur l'étagère. Et tout d'un coup, notre ami Ali est devenu vraiment très attentif. Il a eu peur. Il a dit à Ali, « Est-ce que ce vase est-il vide ou est-il plein ?» Il a répondu, « Eh bien, il est vide. Il n'y a aucune fleur à l'intérieur. » L'auteur des 5 principes dit alors, « Tu sais scientifiquement parlant comment finalement ce vase est ? Est-il plein ou est-il vide ?» Alors, notre ami Ali, qui est fort instruit, a répondu « Oui, tout à fait, il est plein, il est plein de vide, il est plein d'air. » Mais maintenant, Ali, quelle est la différence entre l'air qu'il y a à l'extérieur et l'air qui existe à l'intérieur de ce vase ? Il n'y a aucune couleur, il n'y a aucune forme. Nous savons qu'il existe et nous respirons l'air. Quelle est la différence entre l'air qu'il y a à l'extérieur et l'air qu'il y a à l'intérieur de ce vase ? Alors Ali a répondu, il n'y a aucune différence. L'air, c'est de l'air. Alors l'auteur lui répondit scientifiquement, il y a une simple différence. À l'instant où l'auteur dit scientifiquement, et là Ali comprit, parce que c'était quand même quelqu'un de très instruit, il dit oui, l'air a pris la forme finalement du vase. L'extérieur n'a aucune forme, mais à l'intérieur, ça a pris la forme du vase. Il avait donc la même forme. L'auteur dit, maintenant Ali, si je prends ce vase, c'est là où Ali est devenu très inquiet, non, ne t'inquiète pas, ça n'arrivera pas. Mais si je prends ce vase et que je le brise contre le sol, qu'est-ce qu'il se passe? Il sera cassé en 1000 morceaux. Tout à fait Ali, il sera brisé en 1000 morceaux. Et c'est vraiment là où je voudrais t'amener sur quelque chose de particulier. Est-ce que l'air qui est à l'intérieur va mourir ? Ali répondit, mais c'est absurde. Non, l'air ne meurt pas. L'air qui est à l'intérieur et à l'extérieur, ce sont les mêmes. Alors écoute bien Ali, c'est exactement ce que disent les Saintes Écritures. Je veux que tu regardes avec moi dans Philippiens chapitre 2. Et c'est là une révélation très puissante reçue par Paul, dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, voici ce qui est écrit. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être l'égal avec Dieu, parce que c'était à lui, il était Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. » C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre comme dans le ciel. Et que chaque langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Regarde bien ce que disent les Écritures, Ali. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Dieu est esprit. Et c'est vrai que dans la langue arabe, il est parlé de « ruh », le mot « vent » aussi. Alors, le même mot arabe, il y a cette racine qui est là. Les deux sont les mêmes partout. Vous ne les voyez pas, mais vous savez qu'ils existent. Dieu est partout. Il est omniprésent. Vous ne le voyez pas, mais il est partout. Il n'a aucune forme, mais il a pris la forme d'un homme. Ainsi, quand vous prenez cet homme, la forme de cet homme est... Vous le brisez sur la croix, vous tuez cet homme sur la croix, l'esprit à l'intérieur, lui ne meurt jamais. Et c'est pourquoi on ne peut pas dire, et c'est un non-sens de le faire, quand vous avez tué Jésus, Dieu est mort. Parce que Dieu est esprit. Et il a pris la forme d'un homme. Il est devenu semblable aux hommes dans la forme d'un homme. En fait, et c'était vrai, dès le début, les pères de l'Église ont écrit à ce sujet. Il y a des centaines d'années, la réalité est que Jésus existe avant la fondation du monde. En effet, dans les Écritures, Jésus dit de lui-même, « Avant qu'Abraham ne soit né, j'étais. » Il était réellement Dieu et réellement homme en même temps. Il était réellement Dieu parce qu'il est devenu, il est venu de l'Esprit de Dieu. Il est vraiment homme parce qu'il a dû mourir sur la croix. Et s'il n'était pas un vrai homme fait de chair et de sang, il n'aurait pas pu en tout cas mourir pour les péchés des hommes. Et sa mort sur la croix, il a pris en quelque sorte la main coupable et perdue de l'homme et il a saisi la main de Dieu et il a réconcilié, je dirais, les deux ensemble. Voilà pourquoi il est dit que par sa mort à la croix, nous avons été réconciliés avec Dieu. Et maintenant, il nous a donné le ministère de réconciliation pour aller partager aux gens cette réconciliation. Que le Christ sur la croix, sur le bois du calvaire, lui-même est capable de réconcilier l'homme et Dieu en même temps. La justice est là, mais elle est jointe à l'amour. Rahma, la miséricorde de Dieu. Et qu'est-ce que j'entends par là? Comment a-t-il joint la justice et l'amour? La miséricorde de Dieu ensemble. L'Écriture sainte dit que l'homme est coupable et le salaire du péché, c'est la mort. Cela signifie que chaque personne devrait mourir. Parce que chaque personne est coupable et le salaire du péché, c'est la mort. Et si c'est le cas, qui aujourd'hui serait sauvé? Parce qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu, nous dit la Bible, la parole de Dieu. Mais je voudrais vous raconter une histoire étonnante. C'est l'histoire d'un juge dans une grande ville, un juge qui est impartial et intraitable dans le sens de la justice. Et ce juge, un jour, voit arriver devant lui une jeune fille. Cette jeune fille a été condamné pour un fait, je dirais, très délicat, difficile. Il dit à cette jeune fille, « Est-ce que mademoiselle, vous reconnaissez que vous êtes coupable, oui ou non ?» La jeune fille réplique, « Oui, je suis coupable, mais je ne peux pas payer. Êtes-vous coupable, oui ou non ?» répète ce juge. Elle dit, « Oui, je suis coupable et j'ai pas de quoi payer. » C'est incroyable. Ce juge a enlevé son vêtement de juge, s'est dirigé vers la trésorerie et il a pris tout ce qu'il avait. Il a vendu tout ce qu'il avait pour payer la dette à l'égard de cette fille. Pourquoi? En réalité, cette fille était sa propre fille. Et ce juge qui était puissant, a mis sa puissance, je dirais, au service de son amour. Et il a joint la justice, il a joint l'amour, et il a payé la dette à l'égard de cette fille. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Jésus, qui a été dans le ciel, a enlevé la robe de gloire qu'il portait. Il est devenu semblable aux hommes. Il a obéi jusqu'à la mort sur la croix. Certains diront toujours, « Oui, mais j'ai entendu dire que Dieu, en réalité, a changé l'image de Judas en l'image du Christ. Et il a donc pris la ressemblance de Jésus. Et ils ont crucifié Judas. Il faut être prudent. Le Coran ne dit jamais cela, et cela n'est jamais mentionné en tout cas dans le Coran. C'est seulement une rumeur. Mais voici ce que vous pourriez dire. Après que vous montrez à votre interlocuteur musulman, de la Genèse entière au Nouveau Testament, comment sur des milliers d'années, Dieu, à travers tous les prophètes, a prophétisé que Jésus viendrait et qu'il mourra sur la croix pour les péchés du monde. Imaginez juste au tout dernier moment, où le moment vient pour Jésus de vraiment mourir sur la croix, que penseriez-vous de Dieu s'il change d'avis et crucifierait Judas comme une punition pour avoir trahi Jésus? Ce n'est pas Dieu qui a pu inventer cette idée de punir Judas. Mais que penseriez-vous de Dieu? Personnellement, je n'aurais pas confiance en un Dieu qui change d'avis comme cela, à la dernière minute, parce qu'il n'y a aucun espoir pour moi désormais pour être sauvé, pour l'humanité, pour avoir la vie éternelle. Mais partout dans l'Écriture sainte, c'est clair. Dès le début, dès le moment où l'homme est tombé dans le péché, Dieu a promis par la postérité de la femme qu'il écrasera la tête de Satan et l'homme sera racheté. Nous arrivons maintenant à une partie très importante qui concerne la Trinité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous verrons que la Trinité biblique et la Trinité coranique n'ont rien à voir. La Trinité coranique, c'est Dieu, Marie et Jésus, et la Trinité biblique, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit.